Je suis très attachée à mes valeurs chrétiennes. Dans un monde où les besoins sont importants, il est primordial de préserver le lien entre charité, justice sociale et spiritualité.
La fabrique des saints.
Elle a consacré sa vie aux pauvres. Mère Teresa sera canonisée. Le pape François a reconnu un deuxième miracle. Le premier avait déjà permis sa béatification. Née en 1910 dans une famille albanaise en Macédoine, la jeune Agnès part à l'âge de 18 ans comme religieuse en Inde. Elle deviendra Mère Teresa de Calcutta et fondera la Congrégation des missionnaires de la Charité avant de mourir en 1997. Lors de son anniversaire hier soir, le pape François a annoncé que Mère Teresa, qui fut prix Nobel de la paix en 1979, sera aussi sainte.
La marche de certains personnages vers la canonisation peut être contrariée. Le malheureux Charles de Foucault, un siècle après sa mort, n'en est encore qu'au statut intermédiaire de bienheureux. Pour Mère Teresa, disparue il y a moins de 20 ans, le trajet fléché d'avance s'est effectué en accéléré. Son cas est intéressant à double titre. D'une part, Mère Teresa présente toutes les garanties de conformité qu'il convient de présenter au juge de Rome. Et c'est justement le pape qui, depuis près de 1000 ans, s'est réservé le droit de porter les saints sur les autels. D'un autre côté, elle relève aussi d'une tradition plus ancienne, l'adoption par acclamation, dès lors que des fidèles du monde entier, mais aussi des non-croyants, considèrent Mère Teresa comme un exemple, une médiatrice, on ne peut pas ne pas en tenir compte. L'Église orthodoxe a peut-être mieux maintenu que la catholique la part de l'initiative d'en haut et de celle d'en bas, dans ce qu'elle n'appelle pas canonisation, mais glorification. La glorification, c'est bien mieux que l'aboutissement d'un procès qui, constatant des vertus extraordinaires chez quelques-uns, définit leur singularité. En bonne doctrine, les saints, pour l'heure disparus, ne sont jamais loin des vivants. Ils les accompagnent dans la même humanité qui va de commencement en commencement, jusqu'à, je parle comme les croyants, atteindre le monde qui doit advenir.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Philippe Boutry, bonjour.
Bonjour.
Grand habitué de Rome, vous avez vécu 10 ans à l'école française de Rome et assisté, j'imagine, à nombre de cérémonies sur la place Saint-Pierre, comparables à celles qui vont avoir lieu dimanche. Vous êtes un grand historien du catholicisme du 19e. C'est d'ailleurs au 19e siècle qu'on a de nouveau retrouvé les vertus des premiers saints qui, au départ, étaient des martyrs. Le premier saint, c'est un martyr qui témoigne de sa foi par la mort. Je ne crois qu'aux témoins qui sont prêts à mourir.
Je ne crois qu'aux témoins qui se font égorger, dit Pascal. En effet, vous avez tout à fait raison, c'est à partir des martyrs que se constitue l'idée chrétienne de la sainteté. Ceux qui ont témoigné jusqu'au sang de leur foi sont honorés par les premières communautés chrétiennes et très tôt sont dressés ce qu'on appelle des actes des martyrs qui constituent la première littérature intéressant la sainteté. On recueille également leur corps, on recueille également parfois leur sang, les restes, et le culte des reliques des martyrs est presque contemporain de l'exaltation du martyr lui-même, martyr étant, je le rappelle, un mot grec qui veut dire témoignage.
J'attends le jour où quelqu'un viendra. Charles de Foucault, en 1916, va connaître lui aussi le martyr. Le martyr, ça existe toujours. Aujourd'hui, les moines de Tibérine, le père Jacques Hamel. Mais enfin, quand même, le vivier des martyrs, au bout d'un moment, disons à partir du 3e, du 4e siècle de notre ère, n'apparaît plus comme tout à fait suffisant. Un des premiers saints non martyrs, on va parler de lui parce qu'il est un peu dans l'actualité, c'est Saint Martin. Il serait mort il y a 1700 ans à Tours. Hein, où il a été évêque et fondateur de monastères. C'est pas seulement un centurion romain qui coupe son manteau en deux pour en donner une partie aux pauvres. Et il a fait l'objet d'un livre, vous parliez des actes des martyrs, la biographie, la géographie de Saint Martin a été rédigée par un nommé Sulpice Sévère, qu'on entend ici dans une dramatique télé de 1961, rendre visite à un adjoint de Saint-Martin. Un adjoint de Saint-Martin qui est un peu faucheton d'ailleurs.
Je pense rédiger une vie de l'évêque Martin.
Ah, quelle excellente idée.
Peut-être aurais-je dû dire une vie du moine Martin.
Ils sont indissociables. Mais je sais que vous ne manquerez pas un bon chrétien d'insister sur le prestige de l'épiscopat.
Dois-je comprendre que pour vous, les miracles de Martin ne sont que légendes ?
Mais non, il en a fait autrefois, comme tout évêque. Et qu'il charme une populace éprise de merveilleux, rien n'est plus naturel.
Il me paraît utile de faire le portrait d'un homme de foi. Et de dire, voilà tout ce que l'on peut faire avec l'amour de Dieu. Et ce n'est pas un rêve, un homme l'a fait, qui se nomme Martin, et qui est si proche du Christ, que par mille traits de son caractère, par mille actions, il lui ressemble.
Allons. Vous ne ferez plus croire à personne aujourd'hui qu'un homme de ce siècle est semblable au Christ. On rira de vos fables. Mais enfin, quels sont les mérites de cet homme pour qu'il brouille ainsi votre intelligence? Qu'allez-vous raconter? Que d'imagination il vous faudra pour en faire un martyr? Où a-t-il été torturé, persécuté? Je vous le demande.
Le faucheton dit, c'est pas un martyr. En même temps, il dit, c'est un évêque. Alors, la fonction d'évêque, ça peut amener à la sanctification.
Le mot important, c'est un mot qui a un peu changé de sens aujourd'hui, c'est confesseur. On va très tôt élargir l'idée de sainteté des martyrs au confesseur. Celui qui confesse sa foi, cela peut être le témoin, cela peut être le martyr à proprement parler, mais cela peut être aussi celui qui enseigne, celui qui donne l'exemple, celui qui vit à l'imitation du Christ. Le Moyen-Âge parle d'imitatio Christi, imitation du Christ, et on le retrouve dans l'extrait que vous venez de donner. Et je pense que c'est par ce biais de l'imitation du Christ, à un moment où l'Église ne produit beaucoup moins de martyrs, que une extension naturelle du témoignage vers la confession de la foi et l'exemplarité chrétienne à l'imitation du Christ va constituer l'idée de sainteté telle qu'elle va s'imposer ensuite dans la tradition chrétienne.
Parce que l'imitation du Christ, c'est un combat. Un combat qui peut d'ailleurs se dérouler dans la nuit, dans la ténèbre.
Tout à fait, tout à fait. Et on va voir valoriser à la fois des figures d'évêques, c'est-à-dire de chefs du peuple chrétien au niveau local, au niveau du diocèse, mais aussi de moines, de combattants dans le siècle ou hors du siècle pour le peuple chrétien. Et c'est ces différentes figures qui vont confluer pour créer la figure médiévale du saint, qui est beaucoup plus large que celle du martyr.
J'ouvre une parenthèse, exposition Musée des Beaux-Arts de Tours à partir du 8 octobre, consacrée pour l'anniversaire de sa mort à Saint-Martin de Tours. Vous parlez des moines ou des religieuses, le combat spirituel qu'elle mène, je reviens à mon thème, peuvent se dérouler dans la ténèbre, dans le doute. Mère Teresa elle-même, elle était dans le doute.
Un texte tout à fait extraordinaire de Mère Teresa a été publié après sa mort, qui fait état de doutes dont elle s'était d'ailleurs ouverte elle-même au pape Jean-Paul II, qui fera tant pour sa béatification. Et c'est en avançant dans la nuit, si je puis m'exprimer ainsi, que Mère Teresa accomplit la tâche qui aujourd'hui va réunir sans doute des milliers de personnes place Saint-Pierre pour l'honorer comme une sainte. Et cette nuit obscure, pour parler le langage d'une autre Thérèse qui était sa patronne, est sans doute un des éléments constitutifs de ce combat spirituel que l'on trouve au fond de beaucoup d'histoire de sainteté.
Alors, on est dans le mystère plus que dans l'histoire, là, en vous écoutant, Philippe Boutry. Le mystère, c'est que quelqu'un qui ne croit plus, qui est un bloc noir, c'est arrivé à Mère Teresa, puisse irradier de lumière des gens qui, ne croyant plus, vont croire à cause de quelqu'un qui ne croit plus.
Oh, c'est peut-être pousser le paradoxe un peu loin, mais chez un saint plus proche que nous, de nous, qui est le curé d'Ars, qu'on vient trouver dans l'obscurité de son confessionnal, il y a aussi des moments de très grande lassitude, des moments où il souhaiterait abandonner les hommes qui viennent à lui. Et en effet, on vient à lui comme à un saint, et c'est dans cette proximité avec le saint que se livre, en quelque sorte, le combat spirituel, non plus du saint lui-même, mais du fidèle qui vient au saint.
Alors,
et qui, à travers le saint, vient à Dieu.
Nous excuserons, je vous traite en théologien avant de vous traiter en historien, on parlait d'obscurité. Le saint, c'est aussi celui qui partage un peu de l'éclat de la lumière du Christ. Le Christ a partagé l'humanité de tous les hommes, et les hommes, entrant en relation avec lui, partage un peu de sa divinité. Et tout ça, ça se fait dans l'Église.
Tout à fait, tout à fait. La communauté, la communion, pour parler en termes théologiques, des vivants et des morts, au sein de ce qu'on appellera la Jérusalem céleste chez Augustin, est un élément extrêmement important de la tradition catholique, de la communion des saints, chacun étant non seulement capable de Dieu, mais capable de prier l'un pour l'autre. Et c'est dans cette perspective d'une communion des saints que va également se constituer l'idée médiévale de la sainteté, cet immense cortège des vivants et des morts vers la Jérusalem céleste.
Et qu'incarne la liturgie. Ici, nous sommes le samedi de la résurrection, la vigile pascale, sur tous les points de la planète catholique. Ici, nous sommes au Québec. Eh bien, cette communauté céleste qui réunit les saints déjà disparus, mais qui vont revenir, elle est toujours vivante, s'exprime ainsi.
Saint-Benoît et Saint-Scolastique, Saint-Antoine, Saint-Augustin et Sainte-Monique, priez pour nous. Saint-Vierge Chanel et Saint-Marcellin Champagnat, Saint-Jean de la Croix et Sainte-Thérèse d'Avila, Saint-Edith Stein, Sainte-Cécile et Saint-Bernard, Sainte Marguerite Marie, Sainte Catherine de Sienne et Sainte Maria Goretti, Sainte Bernadette et Sainte Faustine, priez pour nous.
Dans ce mouvement, c'est difficile à comprendre, mais si fort, les croyants, et parfois les non-croyants, attendent des saints une intercession.
Tout à fait, c'est un des points essentiels peut-être du culte des saints aux origines même, c'est l'idée que par l'intercession de la Vierge et des saints, il soit possible d'accéder à Dieu et de faire accéder ses prières à Dieu. Et l'on voit très vite dans la tradition médiévale des saints thérapeutes, c'est-à-dire des saints qui soignent, des saints qui sont de secours pour les vivants, des saints capables de miracles.
Là, on entendait le nom dans ces litanies québécoises de saints du 19e siècle, Saint-Pierre Chanel de Lyon, qui a été dévoré tout cru par les indigènes de Wallis ou Futuna. Il a été mangé. Saint-Marcellin Champagnat, qui vient de la Bresse, qui vous est cher. Vous étiez dans le Cantal cet été. Le frère Bénilde, Saint-Bénilde.
Oui,
C'est un intercesseur.
C'est un frère des écoles chrétiennes, qui est né dans un petit village de l'Allier, Turet, près de Vichy, qui est mort à Saugues, en Haute-Loire, et qui a été canonisé par le pape Jean-Paul II, et autour des reliques duquel est né un culte thérapeutique, avec une réelle ferveur de la part de tous ceux qui viennent le prier comme intercesseur dans leur maladie.
En même temps, on va maintenant venir à l'historien de l'Église et à son témoignage. des soupçons sont possibles, des précautions sont à prendre. Saint-Martin, à l'époque où il était évêque de Tours, luttait pour déterrer un type qui était entouré de vénération dans son tombeau, mais qu'il considérait comme un brigand. Dans les églises, on prie Saint-Expédite pour expédier dans l'autre monde les gens dont on veut se débarrasser. Il faut faire le tri, dit oui. L'Église,
oui, il y a...
qui élimine en même temps qu'elle promeut.
Il y a très vite une inquiétude de l'autorité ecclésiastique devant les procédures par acclamation, d'autant que localement, on peut aboutir à des abus. Un roi de Suède, mort ivre mort, a failli devenir un saint, et c'est la papauté qui s'y était opposée en considérant que les circonstances de sa mort n'étaient guère édifiantes. C'est pourquoi, à côté de l'intercession, et liée à cette idée d'intercession, il y a l'idée d'exemplarité. Et cette exemplarité va être très vite objet de recherches, d'enquêtes, d'inquisitions, comme on dit au Moyen-Âge.
Et ça ne pouvait être fait que par Rome.
Et ça ne pouvait être fait que par une autorité indépendante des pouvoirs locaux. Et très tôt, les papes vont demander ce qu'on appelle le droit de réserve pontificale, c'est-à-dire la possibilité d'être les seuls à examiner et à décider de la sainteté.
Le mot canonisation commence à être utilisé à ce moment-là, fin 10e siècle, 1234, c'est ce droit de réserve que vous évoquez, Philippe Boutry. Et puis passons au 16e siècle, on va entendre une messe, une des 100 messes de Palestrina, qui correspond, c'est la messe du pape Marcel, au règne de Sixte Quint. Sixte Quint qui concrétise la chapelle pontificale Sixtine, ses chœurs, et puis qui crée aussi la congrégation qui va devenir la congrégation pour la cause des saints. Nous sommes en 1587 ici dans ce morceau de Palestrina.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Ce n'était pas le chœur de la chapelle pontificale, mais le Talis Scholars, dirigé par Peter Phillips. Nous sommes avec Philippe Boutry, quelques jours avant la canonisation de Mère Teresa. Maintenant, l'historien de l'Église va nous raconter comment, peu à peu, la codification décidée par l'Église s'exerce. La cause, elle reste quand même postulé par l'évêque du diocèse. Quand les deux historiens disent au pape on pourrait faire de Louis XVI un saint martyr, Rome répond, bah oui, mais il faut que ça passe par un diocèse. Hein.
Tout à fait. Non, il y a un très long processus qui a été étudié en particulier par un des grands médiévistes français, André Vaucher, pour mettre en place un procès. Et c'est là que la mentalité occidentale, romaine, diffère un peu de la mentalité orthodoxe, cette glorification dont vous parliez au début de cette émission. Au contraire, à Rome, c'est la culture juridique qui l'emporte, et l'on va construire l'enquête de sainteté comme un véritable procès qui doit conduire à prouver que le candidat à la sainteté, on l'appelle le serviteur de Dieu dans les procès, a manifesté des vertus héroïques. un degré tel qu'elle dépasse la commune mesure de la vertu.
Alors ça, c'est l'étape diocésaine. Je vous propose qu'on en écoute un écho, toujours une dramatique de la télé des années 60, signée Marcel Morette, et qui a pour héroïne Sainte Thérèse de Lisieux. Le procès diocésain, ici, de la future sainte va s'achever.
Je déclare clos le procès diocésain que nous avons ouvert sur Thérèse Martin, en religion sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, née à Alençon, Orne, le 2 janvier 1873. Neuvième enfant de Louis Martin Horloger et de Zélie Guérin d'Antelière. Entrée au Carmel de Lisieux à l'âge de 15 ans et morte à 24 dans ce même monastère le 30 septembre 1897. Après étude de ses miracles et de son écrit « L'histoire d'une âme », ayant interrogé 48 témoins dont 10 carmélites sur l'examen de ses vertus, foi, espérance, charité, ainsi que sur ses promesses de vœux, pauvreté, chasteté, humilité, obéissance, pour notre part, nous déclarons la dite Thérèse héroïque. En conclusion de quoi, avec la grâce de Dieu, plaise à notre Saint-Père le Pape, de daigner approuver et ordonner en cour de Rome et jusqu'à son aboutissement suprême, la béatification et la canonisation de sœur Thérèse de l'Enfant Jésus.
Alors, une fois l'héroïcité prononcée à ce niveau, commence la phase cruciale, qui est la phase curiale.
Alors, il y a deux procès, en effet. Il y a le procès conduit par l'évêque, en lien avec cette congrégation des rites qui a été fondée par Sixte Quint, que vous évoquiez tout à l'heure. Et puis il y a le procès dit apostolique, qui fait en quelque sorte repasser les mêmes témoins et d'autres pour asseoir davantage la cause. Mais cette fois-ci, il sera examiné à Rome et non plus dans l'ordinaire, c'est-à-dire le lieu où a été ordonnée cette enquête. Cela donne à la fois beaucoup d'assurance aux juges ecclésiastiques, cela donne aussi des témoignages extraordinaires. Je pense au procès de mon cher curé d'Ars, pardonnez-moi d'y revenir, il meurt en 1859, il est curé d'un tout petit village dans l'Ain, entre 1862 et 1865, puis à nouveau 10 ans plus tard, défile à peu près tous les habitants de la paroisse pour dire l'héroïcité des vertus et pour nous raconter non seulement le saint, mais aussi l'histoire de la transformation du village par le saint. On a donc des documents tout à fait extraordinaires qui se concluent généralement sur la question du miracle.
Alors, sur la question du miracle, interviennent des médecins, des experts en psychologie ascétique et mystique?
Alors, cela dépend bien sûr des siècles envisagés. Les récits de miracles sont sur le plan médical assez succincts dans les siècles, disons, plus éloignés de nous. On va voir apparaître en effet les médecins, voire les psychiatres, au 19e et 20e siècle, de même qu'on va créer une section historique à la Congrégation des Rites en 1930.
Alors, un certain nombre de nos auditeurs rigolent ou grommellent derrière leur poste, mais vous pourriez leur expliquer pourquoi ils demeurent néanmoins fascinés par ce procès retourné. Quel procès de canonisation? Combien de textes sur l'avocat du diable, de récits?
Alors en effet, c'est tout à fait extraordinaire de voir ce personnage, qui s'appelle officiellement le promoteur de la foi, et qu'on surnomme l'avocat du diable, et qui est en quelque sorte l'adversaire de la cause à l'intérieur même du jugement. C'est en effet une cause inversée. On connaît le système du procureur et de l'avocat. On a là un personnage qui cherche toutes les difficultés possible qui pourrait arrêter une cause de saint. Et on ne manque pas dans l'histoire de la sainteté de difficultés levées ou non levées au dernier moment pour faire accéder tel serviteur de Dieu ou telle servante de Dieu à la sainteté.
Les esprits critiques peuvent dire que certaines difficultés ont, dans certains cas, été facilement levées. Je voudrais que on prenne l'exemple de l'Espagne. 498 évêques, prêtres, religieux, religieuses victimes du camp républicain pendant la guerre civile ont été canonisés d'un coup. En réponse, il y a les évêques basques qui ont fait des cérémonies en l'honneur de prêtres basques, une 14 qui avait été exécutée par les franquistes. Et puis, un grand franquiste devant l'Éternel, rénovateur du franquisme d'ailleurs, en même temps que l'un de ses turiféraires. Escrivá de Balaguer, le fondateur de l'Opus Dei, a tout de même été canonisé en 2002. Vous étiez, dès 1992, à Rome, Philippe Boutry, pour la béatification.
Saint José Maria était un maître dans la pratique de la prière qu'il considérait d'ailleurs comme une extraordinaire arme pour racheter le monde. Il a toujours recommandé en premier lieu la prière, puis l'expiation, et à la troisième place, l'action. La fécondité de l'apostolat réside surtout dans la prière et dans une vie sacramentelle intense et constante. De cela en substance, dans le secret de la sainteté, est le vrai succès des saints. Je salue cordialement le prélat et tous les membres de l'Opus Dei.
Bah oui, sans l'appui de l'Opus Dei, sa puissance, son alliance avec le pape, la procédure n'aurait pas été si rapide. Les pauvres petits frères et petites sœurs de Charles de Foucault sont moins puissants.
Oui, on peut très souvent ironiser sur les liens qui peuvent unir Rome à telle ou telle organisation, et je me souviens très bien de divisions, de discussions passionnées menées à Rome même autour de la béatification, puis plus tard de la canonisation d'Escrivá de Balaguer. Je pense qu'il faut faire une distinction entre ce qui relève des martyrs que vous avez évoqués, martyrs d'ailleurs dans les deux sens, et d'une béatification ou d'une canonisation qui est fondée, elle, sur l'examen des vertus. On n'est pas dans le même contexte. Ce qui, bien sûr, soulève les passions, c'est la rencontre avec la sphère politique. C'est une affaire ancienne. La canonisation d'un certain nombre de rois et de reines a soulevé des problèmes majeurs.
L'Éric de Suède, ivre, fut retenu, n'a pas été retenu.
Non, lui n'a pas été retenu, et la papauté y a veillé. On sait aussi les difficultés que peut soulever l'action politique en général pour un certain nombre de personnages. On a vu aussi des polémiques intéresser l'action des papes eux-mêmes qui ont été béatifiés ou canonisés.
Il y a une procédure en cours pour Robert Schuman et Edmond Michelet, pour parler d'hommes politiques français. Le dernier empereur d'Autriche a été béatifié.
Charles d'Autriche, en effet, a été béatifié. C'est dans l'esprit des canonistes romains, en fonction du caractère d'héroïcité des vertus, et vous avez vu que le pape rappelle un certain nombre des vertus qui sont reconnues à Escrivá de Balaguer, que se prend la décision romaine.
Mais s'il y a des hommes politiques qui sont portés sur les autels, c'est que, d'après le Concile Vatican II, nous sommes tous appelés à la sainteté. Donc le réservoir est extrêmement grand. S'il y a tant de béatification et de sanctification aujourd'hui, c'est pas seulement à cause du dynamisme de Jean-Paul II.
Non, bien sûr que non, même s'il y a eu un rôle capital de ce pape dans une sorte de prise de conscience que le XXe siècle avait été par excellence le siècle des martyrs chrétiens. Il en a béatifié puis canonisé plusieurs centaines, comme vous le savez, et les cas que vous évoquiez des moines de Tibérine ou du père Jean Camel tout récemment nous rappellent à cette réalité de la persécution des chrétiens dans le monde et en France. et d'autre part, l'idée que la sainteté était à l'ordre du jour. J'ai souvent pensé à cette phrase de Léon Blois, « La seule tristesse, c'est de ne pas être des saints », qui conclut l'un de ses romans, et je crois que c'est une tristesse que l'on peut partager.
Et ça va être la conclusion de notre émission. Merci à vous, Philippe Boutry. Je rappelle à Tours l'exposition sur Saint-Martin qui commence le 8 octobre et tout renseignement bibliographique vous concernant notamment sur notre site. L'émission était réalisée par Valérie Aestaray avec à la technique Roland Mahé et à la préparation Frédéric Martin et Maïna Sicard-Grasse. Les sujets à venir dans la tête au carré.
Oui Jean, dans notre bestiaire aujourd'hui, dans la famille des reptiles, on va s'intéresser à un animal emblématique, la tortue terrestre et marine.
Et ce, en collaboration avec la revue. Tiens, ça c'est aussi un animal emblématique.
Oui, la salamandre.
Merci à vous.